Émilie Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère en orientation au Collège Montmorency et spécialisée auprès de jeunes en situation de handicap, également auteur de ce livre « Les personnes autistes et le choix professionnel, les défis de l'intervention en orientation ». On est là pour donner quelques outils aux parents qui nous écoutent. Il y a des obstacles qui se présentent, bien sûr, sur tous les jeunes étudiants qui sont en choix de carrière, mais peut-être des obstacles plus identifiables ou plus récurrents chez les jeunes autistes.
Oui, en fait, c'est ce que j'ai observé dans ma pratique. Puis, ce que je remarque qui est le plus typique d'être des difficultés des étudiants autistes qui veulent se choisir un futur, en fait, c'est vraiment d'identifier un métier et d'identifier un programme d'études qu'ils voudront poursuivre dans le futur.
Oui, et en même temps, je lisais pour préparer cette entrevue, c'est quand même délicat de les accompagner parce que ce n'est pas parce qu'un jeune est passionné de cinéma qu'il va nécessairement faire un bon réalisateur, par exemple. Donc, il y a toute cette écoute-là, mais la connaissance du jeune qui est importante, comment on peut l'amener à reconnaître ses aptitudes?
Bien, en fait, surtout par l'aider à identifier de façon très concrète des exemples du quotidien. Parce que dans le fond, souvent les personnes autistes ont des intérêts restreints et depuis un jeune âge, entretiennent une fascination, une passion pour un sujet assez pointu. Donc, ils vont accumuler beaucoup de connaissances sur un sujet qui les passionne sans pour autant faire des activités ou développer des compétences qui seraient exigées dans le monde du travail. Mm-hmm. Et c'est très difficile au début aussi, il faut dire que ce qui caractérise l'autisme, c'est la rigidité de pensée. Donc, la personne qui est très passionnée par, je reprends votre exemple du cinéma, sera peut-être pas ouverte à ce qu'on lui parle d'autres domaines d'études. C'est le cinéma qui l'intéresse.
Oui.
Et ce qui peut être aidant, c'est de lui faire refléter, que ce soit dans l'exercice que ce soit dans du bénévolat, dans une activité mm-hmm. étudiante, dans un emploi, mais en même temps, bon, ça, c'est une autre difficulté, les emplois d'été pour les jeunes autistes, mais de lui faire constater des forces, des talents que la personne a, mais qui n'ont aucun lien ou peu de lien nécessaire avec le domaine d'intérêt, mais en leur faisant se rendre compte de certaines facilités qu'ils ont, certains talents.
Oui. Ce que j'entends, c'est d'ouvrir les horizons et de le faire tester des choses. C'est important pour tous les jeunes, peut-être pour les jeunes autistes particulièrement. Paul, Charles, je pense qu'il fait des stages hein, aussi.
Oui, excusez. Bonjour. Oui, c'est ça, Charles, il n'a pas sa sixième année en maths et en français. Puis à partir de 15 ans, tu es orienté vers un autre programme. Dans le cas de Charles, c'est la formation préparation au travail.
Mm-hmm.
Vu que Charles est TSA, il peut continuer dans ce programme-là jusqu'à 21 ans. Puis ça le sécurise énormément. Ça l'amène à suivre des stages justement dans différentes plateformes. Ça peut être dans une épicerie, ça peut être comme commis dans une autre petite entreprise. Mais ça lui permet de voir aussi tous les échanges qu'il y a avec les autres personnes.
Ouais.
Parce que ça aussi, pour une personne comme Charles, c'est pas toujours facile. Les interrelations, comme on parlait tantôt, s'il voit une personne là-bas, c'est pas tout le monde qui aime son travail. Fait que quand Charles fait son stage, s'il y a une personne qui est là le matin qui n'a pas le goût d'être là, Charles va le voir vraiment différemment aussi. Mais au moins, ça lui permet de voir, d'aller chercher des apprentissages.
Mais c'est intéressant, Paul, ce que vous dites. Émilie, est-ce que c'est un piège, ça, les interrelations? On en parlait tout à l'heure avec Mélissa Hogan. Parfois, c'est plus complexe décoder les codes sociaux. Est-ce qu'il faut davantage orienter les personnes autistes vers du travail qui est plus en solo?
Mais ça serait notre premier réflexe, puis pour beaucoup de jeunes autistes que moi je rencontre, c'est une de leurs préoccupations, ils veulent pas trop travailler en interaction avec les gens. En même temps, là où ça peut être un piège, c'est que de plus en plus d'emplois, en tout cas ici au Québec, on est une industrie, on a beaucoup de nos emplois sont dans les services beaucoup, et même quand on pense aux stéréotypes, si je peux dire, du programmeur en informatique,
oui,
qui est autiste et qui est seul dans sa bulle, bien de nos jours, on demande de plus en plus aux programmeurs en informatique, aux analystes, d'échanger en équipe avec le client. Donc, oui, c'est sûr que ça fait partie des besoins de la personne et que pour toute personne autiste que j'ai rencontrée, les contacts sociaux restent fatigants. Même quand ils sont rendus plus âgés, plus adultes et plus habitués, ça reste fatigant et épuisant. Donc, c'est sûr qu'il est préférable de miser sur des professions dont la composante majeure n'est pas les relations sociales. Mais en même temps, en tout cas, nous, à notre collège Montmorency, ce qu'on fait, c'est qu'on les intègre dans une activité étudiante qui les amène à développer leur habileté sociale pour qu'ils soient quand même minimalement suffisamment équipés quand ils s'en vont à l'université, quand ils s'en vont sur le marché du travail, pour quand même naviguer dans un certain un minimum là, d'interaction sociale.
Ouais. Une fois que le choix de carrière est fait, Émilie, le parent peut continuer à tenter de valider si c'est le bon choix que son enfant a fait.
Oui, puis c'est sûr que ça va rester quand même, si je pense à la formation, les études postsecondaires restent quand même un grand défi. Dans la clientèle que moi je rencontre, c'est pas tant au plan intellectuel, parce qu'évidemment, on peut comprendre qu'un étudiantiste qui fréquente le cégep n'a pas de déficience intellectuelle qui est comparable aux autres étudiants typiques à cet égard-là, mais que la pression de la performance académique, de devenir de plus en plus autonome à l'université, on s'attend à ce que les étudiants soient très autonome. Donc, tout ça va poser des défis. Donc, c'est sûr que peut-être que sur papier, le programme d'études et la profession convenait très bien aux jeunes, mais qu'on se rend compte dans la vraie vie que la formation pour y accéder compose trop d'embûches. Donc, c'est sûr qu'il faut rester très à l'écoute, être aussi très ouvert d'esprit. Je rencontre quand même beaucoup de parents qui, comme tout parent, veulent ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, souhaitent que leur jeune aille à l'université, une formation là, assez avancée, qu'il soit un professionnel et tout ça. Mais en même temps, c'est pas parce que le jeune a la capacité académique, parce que moi, les étudiants que je rencontre ont d'excellents résultats scolaires, c'est pas parce que la capacité académique est au rendez-vous que le bonheur va être au rendez-vous.
Voilà, ça c'est très juste. Mmh. Il reste 45 secondes, Émilie Robert. Des orienteurs comme vous, est-ce qu'il y en a beaucoup?
Bien, en fait, puis j'espère que votre émission va susciter davantage de l'intérêt chez mes collègues. En fait, on pourrait répondre que non. Là,
c'est un milieu
des conseillers d'orientation. À date, on est deux au Québec à s'intéresser particulièrement aux étudiants autistes. Il y a un autre conseiller dans la région de Québec, André Parent, qui fait un travail similaire au mien.
Bon. Les gens vers votre livre « Les personnes autistes et le choix professionnel, les défis de l'intervention en orientation ». Merci beaucoup, Émilie Robert, du Collège Montmorency.
Plaisir, Mme Paquette. Bonne journée.
Merci à vous.
Merci, au revoir.